Chapitre 7. Quand Christine disparut, Raoul pensa immédiatement que le coupable était Eric. Il était sûr que cet homme avait un pouvoir presque surnaturel. Après l'annonce du ténor, il se précipita sur la scène. Il l'appela. Il avait l'air d'un fou. Il courut jusqu'au bureau des directeurs, mais là, il sentit une main sur son épaule et il entendit ces mots à son oreille. « Les secrets d'Eric ne regardent personne. » Il se retourna et se trouva face à face avec le persan. « Encore vous ?» dit Raoul d'une voix irritée. « Mais qui êtes-vous donc ?»« Vous le savez très bien. Je suis le persan. Mais où allez-vous si vite ? Vous ne le devinez pas ? Au secours de Christine !»« Alors, monsieur, restez ici, car Christine Daae est ici. »« Avec Eric ?»« Avec Eric. » »« Comment le savez-vous ? »
J'étais à la représentation et il n'y a qu'un homme au monde capable de faire un enlèvement pareil. C'est Eric.
Vous connaissez donc Eric ? Lui demanda Raoul.
Je sais que Christine est avec lui, répondit juste le persan.
Alors, monsieur, j'ignore qui vous êtes et quelles sont vos intentions, mais je vous supplie de m'aider, ou plutôt d'aider Christine.
Je suis ici pour cela. Je peux essayer de vous conduire auprès d'elle et de lui.
« Alors courons, courons !» dit Raoul.
« Silence !» dit le persan en écoutant les bruits lointains du théâtre. « Nous ne prononcerons pas son nom ici. Nous dirons simplement « il » pour ne pas attirer son attention.
Vous pensez qu'il est près de nous ?»«
Tout est possible. »«
Mais vous savez où il vit ?»«
J'ai mon idée. »«
Vous connaissez donc bien l'opéra ?»«
Moins bien que lui, » répondit modestement le persan.
« Mais assez parlé. En route !»
Ils se rendirent rapidement dans la loge de Christine Daae. Le persan referma la porte. Raoul le vit sortir de sa poche deux pistolets, les examiner, puis les remettre dans sa poche.
« Vous voulez vous battre en duel ?» demanda le jeune homme surpris.
« C'est bien en effet un duel que nous allons, monsieur. Et quel duel ! Car nous serons deux contre un. Je dois vous dire que nous aurons à nous affronter au plus terrible adversaire qu'il soit possible d'imaginer. »
« Mais vous aimez Christine Daae, n'est-ce pas ?»«
Je l'adore.
Mais vous qui ne l'aimez pas, pourquoi voulez-vous risquer votre vie pour elle ? Vous détestez Eric ?»«
Non, monsieur, » dit tristement le persan. « Je ne le hais pas. Si je le haïssais, il y a longtemps qu'il ne ferait plus de mal. »«
Il vous a fait du mal ?»«
Le mal qu'il m'a fait, je le lui ai pardonné. »«
C'est incroyable, » dit Raoul.
Il vous a fait du mal, vous semblez dire qu'il est capable de tout, mais je retrouve chez vous une sorte de pitié que je vois aussi chez Christine. »
Le persan ne répondit pas. Il resta un moment silencieux, puis il dit à Raoul en lui montrant le miroir,
« Bien, allons-y. »«
Mais où allons-nous ? » demanda Raoul.
« Chez le monstre, » répondit le persan.
Ils s'approchèrent du miroir. Le persan toucha quelque chose sur le mur de la loge. Leur double image se troubla aussitôt. Le persan attira le jeune homme contre lui et soudain la glace tourna comme les portes des édifices publics. Elle tourna, emportant Raoul et le persan dans un mouvement irrésistible et les jetant brusquement de la pleine lumière à la plus profonde obscurité. Le persan alluma une lanterne et ils se mirent à descendre un escalier. Ils arrivèrent dans les souterrains de l'opéra. « C'est ici que nous allons entrer dans la demeure d'Eric. L'endroit qui nous en permettra l'accès se trouve entre une ferme et un décor abandonné du roi de Lahore, exactement à l'endroit où est mort Joseph Bucquet. » Ils cherchèrent pendant un bon moment et trouvèrent l'endroit. Le persan tâtait le mur entre les deux décors et soudain, une pierre bascula. Il y avait maintenant un trou dans le mur.
« Il va falloir nous laisser tomber de quelques mètres sans bruit, » dit le persan. « Vous êtes prêts ?»
Le persan commença à descendre, bientôt suivi de Raoul. Ils arrivèrent dans une petite salle. Voici le récit que le persan fit par la suite de cette aventure.
Nous étions au centre d'une petite salle de forme hexagonale, entièrement garnie de glace. Mais, chose étrange, nous étions totalement enfermés dedans. L'entrée avait disparu par magie. Tout à coup, nous avons entendu un bruit qui venait d'une pièce située à notre gauche, une porte qui s'ouvrait, puis un gémissement et enfin ces mots. « C'est à prendre ou à laisser, la messe de mariage ou la messe des morts. » J'ai reconnu la voix du monstre. Puis il y eut un long silence, j'étais sûr que le monstre ignorait notre présence. « La messe des morts, ce n'est pas gai, » reprit Eric, « alors que la messe de mariage, c'est magnifique. Il faut prendre une décision et savoir ce que l'on veut. Je ne peux plus vivre comme ça, au fond de la terre. Je veux vivre comme tout le monde. Je veux avoir une femme et nous irons nous promener le dimanche. J'ai inventé un masque qui me fait le visage de n'importe qui. Tu seras la plus heureuse des femmes et nous chanterons pour nous tout seuls à en mourir. Tu pleures. Tu as peur de moi. Je ne suis pourtant pas méchant au fond. Aime-moi et tu verras. » Silence. Chaque silence était pour nous un espoir. Il avait peut-être laissé Christine seule. Il nous fallait son aide pour pouvoir sortir de la pièce. Soudain, nous avons entendu. Je reviens. J'en ai pour une minute. Et des pas s'éloignèrent. Monsieur de Chagny a alors appelé Christine. Une voix faible a alors dit. Je rêve ? Non, c'est moi, Raoul. Je suis ici, avec le persan, pour vous sauver, mais pas d'imprudence. Quand vous entendrez le monstre, avertissez-nous. Christine nous a alors dit de partir. Elle avait peur pour Raoul. Elle nous a appris qu'Éric s'était fâché quand il avait vu qu'elle ne portait plus son anneau, qu'il était devenu fou d'amour et qu'il était décidé à tuer tout le monde et lui-même avec si elle refusait de l'épouser. Voilà pourquoi elle devait choisir entre les deux messes. « Pouvez-vous nous dire où est Éric ? » ai-je demandé. « Je ne sais pas. Mais vous, où êtes-vous exactement ?»« De l'autre côté du mur, dans la pièce des glaces, et nous ne voyons pas de porte, » a dit Monsieur de Chagny. « Y a-t-il une porte ? » ai-je demandé. « Oui, et je sais où est la clé, » a répondu Christine. « À côté de l'orgue, dans un petit sac en cuir, mais je ne peux pas l'atteindre car je suis attaché. » « Mais pourquoi vous êtes-il attaché ? » ai-je demandé. Car j'ai voulu me tuer, et je n'ai le droit de mourir que demain soir à 11 heures. Chut, j'entends du bruit. Allez-vous-en, allez-vous-en.
Tu as crié, Christine. Pourquoi ? A soudain dit le monstre.
Parce que je souffre, Éric.
Bien, je vais te libérer. Puis nous allons chanter.
On a entendu l'orgue, et leurs magnifiques voix ont commencé à s'élever. Puis l'orgue s'est soudain arrêté, et Éric, d'une voix dure, a crié.
Qu'est-ce que tu as fait de mon sac ? Je ne le vois plus. C'est pour le prendre que tu voulais que je te délivre, n'est-ce pas ? Tu sais qu'il contient une clé. Que voulais-tu faire avec ?
Visiter la pièce des glaces que vous ne voulez pas me montrer. Une curiosité de femme.
Je n'aime pas les femmes curieuses. Rends-moi mon sac.
Il a ricané et Christine a poussé un cri de douleur. À ce moment-là, Monsieur de Chagny, fou de rage, a crié.
On a crié !
A dit Éric. Un cri ? Mais vous devenez fou, Éric. C'est moi qui ai crié.
Certes, mais quelqu'un d'autre aussi. Tu trembles. Tu es ému. Tu mens. On a crié. Il y a quelqu'un dans la chambre des glaces.
Ah, je comprends maintenant.
Il n'y a personne, Éric. Ton fiancé, peut-être.
Je n'ai pas de fiancé. Vous le savez bien.
Nous allons voir Christine.
Non ! Cette pièce ne m'intéresse plus. Plus du tout. Soudain, nous avons été inondés de lumière. Puis la lumière s'est éteinte, et peu à peu nous avons ressenti une immense chaleur. La température de la pièce était de plus en plus élevée. « Vous ne trouvez pas qu'il fait chaud ici ? » a demandé Christine.
« Un peu, oui, »
a répondu Éric. « Mais que se passe-t-il ? » a demandé la jeune fille. « Le mur de la chambre des glaces est brûlant. »
« Je vais te le dire, Christine, ma chérie. » C'est à cause de l'Afrique.
L'Afrique ?
Eh oui, j'aime donner une atmosphère aux pièces, et dans celle d'à côté, je viens de donner la chaleur africaine.
La chaleur était maintenant épouvantable. Je résistais moralement, mais je sentais que M. de Chagny était de plus en plus mal. Il avait très soif et délirait. Il nous fallait sortir d'ici. Je devais oublier cette horrible chaleur et trouver une solution. Monsieur de Chagny n'arrêtait pas de demander de l'eau. De l'eau. Il avait la bouche ouverte comme s'il buvait et parlait d'une source. Il allait devenir fou. Je cherchais le long des glaces et soudain, j'ai trouvé un ressort. J'ai appuyé sur le clou et alors, ce n'est pas une porte qui s'est ouverte, mais une trappe dans le sol. Aussitôt, de l'air frais est arrivé. Il y avait peut-être de l'eau en bas. Je me suis penché et j'ai vu un escalier. J'ai attrapé M. de Chagny et avec difficulté, nous sommes descendus. Nous nous sommes retrouvés dans une cave. La fraîcheur nous a vite fait du bien et nous avons pu observer l'endroit. Il y avait des tonneaux partout. Nous les avons examinés, l'un après l'autre. Ils étaient vides, sauf un. Avec la lame d'un couteau, je suis parvenu à l'ouvrir. M. de Chagny a aussitôt mis ses mains pour recueillir le liquide, mais à notre grande surprise, dans ses mains, ce n'est pas de l'eau tant attendue qui est tombée, mais de la poudre. Je ne savais plus quoi penser. Nous sommes remontés dans la chambre des glaces. Je devais parler à Christine. Nous étions perdus. Nous ne comprenions plus rien. Nous avions même perdu la notion du temps. Quel jour étions-nous? Quelle heure était-il? Dans la pièce, il faisait moins chaud maintenant. J'ai mis mon oreille contre le mur de la pièce voisine, mais je n'entendais rien. Puis, tout à coup, il y a eu un bruit de pas léger. Quelqu'un a frappé contre le mur et nous avons entendu la voix de Christine. « Raoul! Raoul !» Je lui ai aussitôt demandé « Christine, nous sommes perdus. Quel jour sommes-nous et quelle heure est-il ?»« Une journée est passée et il est 11h10 », a-t-elle répondu d'une voix paniquée. « Dans 10 minutes, nous allons tous mourir. Il vient de me le dire. Il est horrible. Il a retiré son masque et ses yeux jaunes lancent des flammes. Il rit comme un fou. Il m'a donné une clé et m'a dit qu'elle ouvrait un coffre qui est sur la cheminée. Là, m'a-t-il dit, tu trouveras un scorpion et une sauterelle en bronze. Ce sont des animaux qui disent oui ou non. Oui, pour m'épouser. Non, si tu ne veux pas. Si tu tournes le scorpion, cela voudra dire oui. Si par contre, tu préfères la sauterelle, c'est non. Alors, tout sautera. Comme elle, la jolie sauterelle. Ils veulent tous nous tuer. Alors je vais tourner le scorpion, Raoul, mon amour. Il le faut. Christine, ai-je crié, n'y touchez pas! Je pense qu'il vous trompe. C'est peut-être le scorpion qui fait tout sauter. C'est lui! A crié Christine. Et on entendit la porte de la pièce d'à côté s'ouvrir.
Alors, Christine, a dit le monstre, que tournes-tu? Bon, tu ne réponds pas, alors adieu, mademoiselle. Saute! Saute, sauterelle!
Éric! « J'ai tourné le scorpion !» a dit courageusement Christine.
« Mon Dieu, quelle horrible minute ! Je pensais que tout allait sauter malgré tout. Mais il ne s'est rien passé. On a entendu des gargouillements inquiétants. De l'eau montait de la trappe à une vitesse folle.
« Christine ! Christine !» a hurlé Raoul. « L'eau monte ! Jusqu'à nos genoux !»
Pas de réponse. L'eau montait, montait toujours. Nous allions nous noyer et nous avons perdu connaissance. Ce qui s'est passé ensuite, je ne m'en souviens pas. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais couché sur un lit, dans une belle pièce. Monsieur de Chagny n'était pas là. Éric est entré. Il m'a dit « Vous êtes sauvés tous les deux. Je vais te reconduire sur le dessus de la terre. Et tout cela grâce à Christine. Oui, Christine est une belle personne. Quand elle m'a dit oui, je l'ai prise dans mes bras et je l'ai embrassée et elle a répondu à mon baiser. Jamais, jamais personne n'avait fait cela. Ni ma mère qui m'a très vite abandonné à cause de ma laideur. Alors mon cœur s'est empli d'amour et de bonté. J'ai pleuré, pleuré des larmes de bonheur. Elle est restée là, à sécher mes larmes. Elle me disait « Pauvre et malheureux Éric ». Puis je lui ai dit « Christine, je sais que tu aimes ce jeune homme. Sois tranquille. » Elle m'a alors demandé ce que je voulais dire et je lui ai fait comprendre. Et elle a tout de suite compris. Que je n'étais pas un monstre, que j'allais vous sauver et qu'elle pourrait épouser ce jeune homme qu'elle aime tant.
et elle m'a embrassé sur le front. Puis je vous ai sauvé. Maintenant, ils sont partis tous les deux. Si Christine tient sa promesse, elle reviendra me voir de temps en temps. Puis Eric s'est tu. Plus tard, j'ai appris que Christine et Raoul s'étaient mariés et qu'ils étaient partis loin de Paris. Un jour, j'ai reçu un mot de Christine, juste avec ces mots « Eric est mort ». Voilà l'histoire du fantôme de l'opéra. Pauvre malheureux Eric. Faut-il le plaindre? Faut-il le maudire? Il voulait juste être un homme comme tout le monde. Mais il était trop laid. Il a dû se cacher toute sa vie et vivre sous terre alors que c'était un génie. Vraiment, je le dis, il faut plaindre le fantôme de l'opéra.